Et oui, je reçois Cédric Zabot, il est le directeur de l'Association des maires ruraux de France qui a publié en début d'année un rapport alarmant sur la désertification médicale. Retenez bien ce chiffre, 10 millions d'habitants seraient concernés sur le territoire national. Alors, si l'Occitanie est relativement épargnée par rapport à d'autres régions de France, certains départements n'en demeurent pas moins concernés. On fait le point ce matin. Bonjour Cédric Zabot.
Bonjour.
Un grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'être en ligne avec nous ce matin. Alors, ce rapport qui vient compléter deux autres études publiées en fin d'année dernière, elle, est-ce que c'est un signal d'alarme que vous tirez ?
Oh, je pense que c'est plus que ça. Les signaux d'alarme ont été tirés, ça fait 20 ans, 30 ans que les rapports parlementaires s'accumulent pour dire qu'on va dans le mauvais sens et que rien n'est fait de manière structurelle dans l'organisation de l'offre de soins dans notre pays pour satisfaire aux besoins d'une population qui augmente et dont la part de personnes âgées augmente aussi. Et donc cette étude, elle est plus qu'un signal d'alarme, elle est une interpellation définitive. Après, il sera trop tard.
Une interpellation définitive, d'autant que le phénomène s'amplifie d'année en année, je crois. Un regard sur l'évolution des choses.
Oui, c'est ça qui est frappant dans les trois études que nous avons publiées. La quatrième sort la semaine prochaine sur la chance d'accéder aux urgences et le temps d'accès qui est primordial dans ce type de configuration. Et là encore, le monde rural est le parent pauvre de l'organisation des soins. Et donc aujourd'hui, nous, ce que nous dénonçons, c'est l'inaction collective, y compris peut-être même celle des élus, mais d'abord celle du ministère de la Santé et de ses ramifications territoriales que sont notamment les agences régionales de santé, qui ne prennent pas en considération la réalité du vécu des habitants. Et aujourd'hui, par exemple, un phénomène qui est presque anonyme et clandestin, qui est la question du renoncement aux soins. C'est très difficile à mesurer, mais on sait aujourd'hui, par exemple, qu'il y a de plus en plus d'habitants de nos territoires, et en particulier des territoires ruraux, qui n'ont plus de médecins traitants, parce que le leur est parti et qu'il est impossible d'en trouver un dans un périmètre raisonnable, parce que les médecins sont logiquement sous pression aussi, et qu'ils ne peuvent pas accepter de nouvelles patientèles comme ça, de manière mécanique.
Et d'autant, je crois, c'est ce qu'on voit dans cette étude, vous allez me le confirmer, que c'est dans les départements ruraux et surtout hyper ruraux que le vieillissement des médecins généralistes est le plus marqué. Plus de la moitié des médecins, il y a aujourd'hui plus de 55 ans.
Exactement, et donc c'est un phénomène qui est à regarder avec beaucoup d'attention et de vigilance, puisqu'il est aussi cumulé à une autre évolution, qui est la féminisation de la profession. Aujourd'hui, plus de la moitié des jeunes médecins sont des femmes. Et on sait que la question de l'organisation de la vie personnelle, les choix de stratégie résidentielle tendent plutôt ces populations-là à faire qu'on reste plutôt près des centres urbains, notamment, et ça c'est un des grands échecs de la politique sanitaire de notre pays, en fait on reste proche, très proche, voire même très proche de sa faculté de médecine. Et qu'il n'y a pas eu, même si on a démultiplié le nombre de formations en France, ça reste une pratique urbaine et qu'on essaye de s'installer professionnellement à proximité immédiate parce qu'on y a créé sa vie personnelle, etc. Donc il n'y a pas de procès d'intention là-dessus, c'est juste une réalité objective et on constate qu'effectivement il y a une espèce d'assèchement, si j'utilisais une métaphore visuelle, vers le centre de là où sont formés les jeunes médecins.
Donc échec, interpellation, les mots sont forts ce matin dans votre bouche. Cédric Zabot, je rappelle que vous êtes le directeur de l'Association des maires ruraux de France. Pour qu'on soit bien clair sur la situation, qu'est-ce qu'on appelle une situation justement de désert médical ? Ça consiste en quoi précisément ?
Ce qu'on a voulu démontrer avec ces études, qui sont d'abord, il faut le préciser, scientifiquement inattaquables, parce que ce sont des données du ministère de la Santé, et donc qui sont travaillées par des chercheurs de très haut niveau. Et ce qui nous permet de qualifier la notion, on va dire, médiatique de désert médical, c'est beaucoup de dimensions à la fois. Vous avez signalé la question de la densité médicale, j'ai évoqué la question du temps d'accès, par exemple, aux urgences. La première étude que nous avions publiée renvoyait à la question de la probabilité d'accéder aux soins hospitaliers. Quand vous vivez à la campagne, vous avez 31% de chances de moins d'accéder, par exemple, à un traitement en chimiothérapie quand vous avez un cancer que si vous habitez en ville. Vous avez la question de l'espérance de vie, où on voit sur ces 10 et 20 dernières années une augmentation de l'écart de l'espérance de vie entre urbains et ruraux. Et donc tout ça paraît tellement insupportable, et les mots sont peut-être forts, mais ils sont tellement inférieurs à l'immensité du désarroi de l'acteur public qu'est le maire. Parce qu'il faut rappeler que nous sommes une association d'élus, et pourquoi est-ce que c'est une association d'élus et non pas, par exemple, des professionnels de santé ou tout simplement l'État ou voire le Parlement qui se saisissent de cette situation-là à ce point. Parce que tous les jours, les maires se battent pour essayer de trouver une solution pour que, si on a un projet de maison médicale, on puisse venir trouver des jeunes médecins ou des moins jeunes d'ailleurs, de choix à avoir, simplement pour garantir un accès aux soins à nos populations, dont il faut rappeler aussi un phénomène majeur de ces 20 dernières années, c'est que la population rurale augmente. Avec donc ce paradoxe, vous avez plus de population et vous avez moins de professionnels de santé.
Un médecin pour combien d'habitants dans une situation de désert médical ?
Je crois que ce qu'on a montré, nous, c'est les inégalités. Je veux dire que moi, je ne suis pas spécialiste, notre association n'est pas spécialiste de savoir s'il faut X ou Y habitants, médecins par habitant. Simplement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des disparités qui sont aujourd'hui insupportables. On le sait que, et notre association le démontre tous les jours, qu'il y a d'autres formes d'inégalités. Ce qui est, je crois, le plus difficile à supporter pour nos élus, c'est le fait qu'une partie de ces inégalités, je dis bien une partie, est liée à l'organisation de l'État. Si encore on était dans un phénomène complètement immaîtrisable, on pourrait, s'en émouvoir, mais finalement on serait assez impuissant là-dessus. Or là, on sait qu'il y a des solutions, parce que c'est pas tout de faire et de publier des études, même si elles sont de qualité, c'est aussi de dire, voilà, maintenant on sait vers quoi il faut aller. Il faut aller vers davantage de confiance faite aux élus locaux. On le voit pendant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, il n'y a pas un préfet qui n'appelle pas les maires à « aidez-moi, hein, aidez-moi à organiser les centres de vaccination, aidez-moi à déplacer les populations pour qu'elles puissent être vaccinées ». Donc on voit bien que notre pays ne peut fonctionner qu'avec, et peut-être même premièrement d'abord, avec ce réseau d'acteurs que sont les élus locaux. Et pour ça, il faut leur donner les moyens de politiques publiques qui soient adaptées aux besoins de nos populations. Elles ne sont pas si exigeantes que ça.
Alors,
elles
sont juste... Avant de venir aux solutions, pardonnez-moi Cédric Zabou, on va essayer de faire un panorama macro de la situation en France. Sur la carte que vous avez présentée dans votre étude, on voit notamment qu'elle est coupée en deux avec un sud et donc l'Occitanie qui nous concerne plus ou moins épargnée, avec toutefois des poches plus concernées. Quelle explication vous y voyez ?
Je pense que c'est pour partie une illusion d'optique. Je peux vous garantir que pour travailler par exemple avec des maires ruraux de l'Aude par exemple, ces dernières semaines, le désarroi dans l'arrière-pays est tout aussi important que dans le Nord ou dans le Grand Est. Hein. Il faut se méfier des moyennes, hein, c'est toujours le principe des statistiques.
Ouais.
Oui, évidemment qu'on le sait que la population médicale, surtout quand elle avance dans son âge et sa carrière professionnelle, aujourd'hui, on discutait il y a quelques mois avec le directeur régional de l'Agence régionale de santé. C'est sûr que la densité de médecins sur la Côte d'Azur, elle est très élevée, mais qu'elle dissimule mal le fait que dans l'arrière-pays, dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, elle est rachitique et elle est préoccupante pour l'accès aux soins d'autres habitants de cette même région.
En Ariège notamment, on voit que dans certains départements, un tiers de la population n'a plus de médecin. C'est quoi les facteurs de désertification médicale ? On se souvient, il y a un an, la fin du numerus clausus devait augmenter le nombre de médecins. Ça n'a pas encore porté ses fruits ?
Oui, mais ça, il n'y avait pas de mensonge dans la promesse. On sait que pour former un médecin, c'est 10 ans, donc on ne va pas sauter au plafond là-dessus. Par contre, il y a d'autres solutions qui aujourd'hui, par exemple, nous avons interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran, au Sénat, concernant une disposition administrative et technocratique que l'on condamne, qui est aujourd'hui d'interdire l'ouverture d'un projet sanitaire de proximité porté par les élus si il n'y a qu'un seul médecin généraliste. Et donc nous, on dit c'est déjà compliqué d'en trouver un, en trouver deux, c'est souvent impossible. Et donc, on ne peut pas, alors que des gens ont passé du temps en réunion, ont essayé de trouver des partenariats avec des professions médicales spécialisées, des infirmières, d'autres types de professions médicales ou de santé, et qui, à un moment donné, se retrouvent empêchés d'agir par une décision administrative. Donc, le ministre s'est engagé à publier une ordonnance pour lever cette contrainte que nous, on qualifie d'excessive. Et à la date où on se parle, cette ordonnance n'existe toujours pas. Donc c'est aussi ça, cette difficulté-là, c'est un certain nombre de décisions qui nous paraissent de bon sens et que l'administration préfère prendre un temps qui est complètement décalé par rapport à la réalité aujourd'hui du vécu de nos habitants.
Et est-ce que trouver un médecin dans les campagnes, c'est une responsabilité qui incombe aux élus ou c'est une politique, je crois que c'est le sens de votre propos, hein, qui doit être menée au plus haut sommet de l'État ?
C'est forcément une alliance des deux. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est que l'appétence, l'envie, la détermination et parfois, encore une fois, souvent le désarroi. Moi, j'ai vu des maires faire les salons, les congrès de futurs médecins avec des photos de leur salon médical, de leur cabinet médical en disant « venez chez nous ». Et on voit d'ailleurs ce qui intéresserait sans doute la presse là, l'économie de l'organisation de ces congrès où ce sont les collectivités locales qui payent les stands pour en gros venir dire mon territoire, venez vous installer. Je pense en particulier dans le sud-ouest des départements comme l'Aveyron ou le Gers qui ont des politiques, là, je parle bien des conseils départementaux, qui ont des politiques assez agressives au bon sens du terme pour essayer de convaincre des jeunes, indépendamment de leur profil, de venir s'installer dans ces territoires-là parce qu'ils estiment que c'est un beau cadre de vie et qu'il n'y a pas de raison de penser que les professions médicales soient exemptées de cette attractivité. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Encore une fois, il y a beaucoup de rigidité aujourd'hui dans la capacité d'action qu'ont les élus. Je pense aujourd'hui, l'État a décidé il y a 3 ans, là, dans le cadre du programme Ma Santé 2022, d'organiser la création de ce qui s'appelle les communautés professionnelles de santé. Et là, à notre grand désarroi, l'État préfère que ce soit les professionnels qui discutent entre eux tout seuls, sans lien forcément direct avec les élus, c'est-à-dire avec un projet de territoire. Aujourd'hui, il y a plein de vallées, il y a plein de cantons, il y a plein d'intercommunalités qui se définissent par des projets de territoire dans lesquels la question de la santé et de l'accès aux soins est importante. Et aujourd'hui, les mécaniques de création de ces communautés professionnelles, en fait, excluent ou en tout cas n'associent pas à nos yeux suffisamment l'écosystème local que constituent notamment les élus.
Et Cédric Zabot, vous faites état de présidents de départements, notamment ruraux, qui essayent de vendre entre guillemets leur département auprès de jeunes médecins à l'occasion de salons. Si les jeunes médecins ne viennent pas s'installer, ne veulent pas s'installer à la campagne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que ça doit passer par la contrainte ?
Alors, il y a plusieurs approches là-dessus. C'est vrai qu'on sait qu'il y a un débat qui est souvent clivant et qui donc n'est pas très productif entre ceux qui sont dans le coercitif pur et puis ceux qui disent voilà, on a choisi une profession libérale, on voit pas pourquoi on serait contraint de quoi que ce soit. Sauf que au milieu, il y a peut-être un chemin plus raisonnable qui est celui du salariat, qui est aujourd'hui une mécanique, un choix professionnel souvent souhaité par les nouveaux professionnels de santé. Et on voit, il y a un certain nombre de départements, je pense à la Saône-et-Loire, je pense à l'Isère, qui aujourd'hui ont fait de cette politique-là, de recrutement de médecins, une politique sociale et sanitaire forte avec une logique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est eux qui décident où seront installés les médecins. Ça ne vous empêche pas d'habiter à Toulouse ou à Montpellier, mais vous travaillez comme plein d'autres salariés, vous n'habitez pas là où vous travaillez. Et donc cette forme-là, on sent qu'elle a une plus grande acceptabilité vers les jeunes médecins. Donc c'est une des pistes. Après, effectivement, sinon, il y a cette logique que certains défendent, y compris d'ailleurs parfois maintenant dans les rangs de l'Assemblée nationale ou du Sénat, souvent d'ailleurs des anciens médecins qui considèrent normal de demander, comme dans l'éducation nationale, l'installation des enseignants se fait sur des cartes scolaires. Et bien peut-être qu'il faudra arriver un jour à des cartes sanitaires.
Passer par là également.
Voilà, c'est après si on met tout de suite des mots qui fâchent et qui blessent. Voilà, encore une
c'est
fois,
pas comme ça qu'on va y arriver.
La question de l'installation, de la question du choix de vie. Moi, je n'oblige personne à vivre dans un village, même si de plus en plus de gens ont envie de le faire.
Et dernière question, est-ce que la télémédecine, dont on entend beaucoup parler, peut être un palliatif ?
Elle est clairement, dans certains types de pathologies, une solution qui vient se substituer à l'absence de traitement. Et on le voit, par contre, je crois que il y a un consensus aujourd'hui qui se dégage sur le fait de dire que ça ne pourra jamais, y compris d'ailleurs dans la profession médicale, se substituer au contact. Et beaucoup de médecins vous disent, moi, quand quelqu'un rentre dans mon cabinet médical, je sais comment il va, si je le fais par smartphone ou par télé. Voilà. Par contre, on sait que sur les pathologies durables, les diabètes ou tout autre type de pathologie de ce style, on sait qu'on peut mesurer l'évolution de l'état de santé du patient tout en étant dans un centre universitaire d'une grande ville, d'une capitale régionale. Donc ce type de solutions, évidemment, elles sont en train de se développer, mais il faut en tout cas ne jamais imaginer que ce soit un produit de substitution, entre guillemets, par rapport à la médecine de ville classique qui reste aujourd'hui à la fois un souhait et une stratégie aussi, là, pour le coup, de l'État. Donc il ne faut pas faire tous les
mener
tous
les deux.
Sujets, mais en tout cas, clairement, ça permet sans doute d'alléger la pression hospitalière, qui reste quand même un des grands maux de notre organisation des soins, et qu'on le voit aujourd'hui, ce système qui a été structurellement organisé pour cela prouve ses limites, puisque la conséquence pratique, c'est que les populations qui vivent en territoire rural n'ont parfois pas d'autre solution que d'aller aux urgences.
Un grand merci. Les urgences, vous nous en avez parlé, c'est également, ça sera l'objet de la quatrième étude que vous allez publier. Cédric Zabot, vous êtes le président de l'Association des maires ruraux. Directeur, pardonnez-moi, de l'Association des maires ruraux de France. Merci de nous avoir décrypté la situation.
Merci.